Je crois que la grande révolution marketing, c'est d'industrialiser la différence. C'est la capacité à offrir un parcours différent à chacun, adapté et de proximité à chacun, tout en ce que ça ne vous coûte pas en tant qu'entreprise, le coût de la personnalisation.
Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute.
Aujourd'hui, sur les voies de la franchise, nous allons parler sport avec David Amiouni, le président du réseau de franchise Kickpool. Bonjour David et bienvenue sur les voies de la franchise.
Bonjour Claire, merci de me recevoir.
Alors David, vous avez commencé chez Kickpool en tant que franchisé, mais vous n'avez pas toujours été dans le sport et vous êtes ce qu'on appelle un multi-entrepreneur. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de votre parcours ?
Avec plaisir. Merci de me recevoir. Je m'appelle David Amiouni, j'ai 37 ans. Je vis à l'île de la Réunion, ce qui est ma particularité et ma spécificité, et mon parcours s'inscrit beaucoup autour de cette île-là. J'ai pas du tout commencé ni par le sport ni par la franchise. À la sortie de mes études, principalement en Amérique du Sud, j'ai intégré un cabinet de conseil parisien qui est à Pignon-sur-Rue dans le registre de l'organisation et de la stratégie. J'y ai passé 2 ans, principalement dans le secteur des télécoms et des médias. Et puis j'ai été envoyé à La Réunion sur une mission qui devait durer initialement 3 semaines pour un opérateur télécom, SFR en l'occurrence. Il se passe 2 choses à ce moment-là. Un vrai coup de cœur pour l'île. Je suis d'origine libanaise et ça évoquait pour moi le Liban d'avant-guerre, etc. Donc ça ressemblait à des choses qui me touchaient. Et puis le sentiment qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est une vraie terre d'entrepreneuriat. J'avais déjà créé des sociétés pendant que j'étais étudiant, etc. C'est mon dada de créer. Et donc, je quitte le cabinet de conseil à ce moment-là, je garde le client et je crée une structure de conseil avec mon associé, qui est encore mon associé aujourd'hui, Grégory. Et donc, on crée une structure de conseil qui rapidement grandit. On a rapidement 100 de collaborateurs au bout de quelques années, avec des bureaux à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Paris, à Nantes, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Et complètement en parallèle de ça, parce que généralement la vie d'entrepreneuriat est faite de petites anecdotes et puis de la capacité à rebondir sur les opportunités que la vie vous offre. Un ami à moi vient en vacances à l'île de la Réunion. À l'époque, il intègre tout juste le réseau Kickpool qui fait à peine 10 de salles et il l'intègre en tant que responsable du développement, mais il vient pas du tout pour travailler, il vient en vacances. Et il me dit, David, écoute, ça m'a pas l'air très développé ici le fitness. Je sais que t'aimes le sport, je suis un passionné de sport depuis toujours. Tu devrais monter une salle. Donc à l'époque, j'ai 25 ans, 26 ans peut-être. Et je lui dis, écoute, pourquoi pas. Donc je collecte les économies que j'ai gagnées sur mes 2 premières années d'activité de conseil. Et puis, je me lance. On crée une première salle. On s'endette à l'époque. Ça devait coûter entre... Pas de tabou sur les chiffres, ça c'est peut-être mes origines libanaises qui m'enlèvent cette pudeur-là. Ça devait représenter un investissement qui devait être autour de 600 000 euros, mais à 25 ans, c'est très lourd à porter. Mais bon, malgré tout, plutôt que d'acheter un appartement et de coffrer de l'argent, moi, je me dis qu'il faut que ça circule. Et donc, on monte assez rapidement la première salle de sport à La Réunion. Ça fonctionne très bien, notamment parce que celui qui s'en occupe, qui n'est pas moi, puisque physiquement, je suis plutôt occupé par le conseil, s'en occupe très bien. Et puis, sur les 4 premières années, on en monte à peu près une par an. Donc, on étoffe le réseau, on le structure. Il y a une première césure, je dirais, il y a à peu près 4 ans de ça. Le conseil continue à se développer, ça reste mon activité principale, on débranche, ça grandit, etc. Et puis, je vois que l'activité de salle de sport et de fitness fonctionne bien. Et avec le recul du conseil, je pense qu'on a cette capacité à prendre des décisions assez vite et à analyser les situations assez rapidement. Et ce qu'on constate à ce moment-là, c'est que le marché des salles de sport, c'est un marché de primo-accédant. Qu'est-ce que ça veut dire primo-accédant ? Ça veut dire que quand vous êtes engagé quelque part, ça devient très difficile de vous désengager pour aller ailleurs. Typiquement, vous prenez un abonnement chez un opérateur télécom, généralement, vous y êtes pour 10 ans. Parce que le principe d'aller, de résilier avec ce qu'imposent les engagements, de changer de numéro ou bien de faire une portabilité de numéro, c'est compliqué. Donc on se dit, on est sur un marché de primo-accédant, le marché est plutôt en croissance, en tout cas il y a encore beaucoup de gens à capter, et donc il faut accélérer. Donc à ce moment-là, on manque de fonds pour aller vite, et je commence à regarder un petit peu ce qui peut se faire pour aller chercher un peu d'argent frais et puis pouvoir accélérer le développement. Et puis, je refuse les fonds d'investissement parce que je suis très attaché à ma liberté et que je déteste les visions court-termistes. Et donc, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Claude Marquet, qui est depuis mon associé, qui est un entrepreneur beaucoup plus âgé que moi, mais extrêmement successful, comme on dit. Voilà, avec un grand talent et qui nous prend un peu sous son aile, qui s'associe avec nous et qui nous finance. Et du coup, à partir de ce moment-là, on accélère le développement. On couvre la Réunion de salle en 2 ans. On ouvre la Martinique. On ouvre l'île Maurice, on ouvre la Belgique, on ouvre l'Ouest de la France. Donc, on devient assez rapidement le premier franchisé du réseau. Et l'activité de conseil continue. Et je dirais, on grandit un peu par capillarité, mais sans en faire l'enjeu principal de ma vie. Et puis, pour être parfaitement honnête avec vous, il y a à peu près 18 mois, 2 ans de ça maintenant, je me fais la démarche d'aller me faire financer une salle au Mans, peu importe, et puis je réalise à ce moment-là que le groupe est dans une situation qui mérite de s'y pencher. Et puis on prend la décision, plutôt que de subir un peu le fait que le rythme d'innovation, de développement se ralentit et puis de mettre en danger nos actifs, on se dit, ben, je reprends. Donc je fais une offre de rachat au propriétaire, au fondateur, et puis c'est comme ça que l'histoire se passe. Et puis à côté
d'accord,
de ça,
à l'époque, il y avait combien de franchisés? C'est la structure actuelle ou
ouais, c'est globalement la structure actuelle. C'est globalement la structure actuelle. Et puis pour finir sur le parcours et sur le multi-entrepreneuriat, on a fait plein de choses à côté. On a ouvert un restaurant étoilé à Paris. On a une startup qui fait des vélos électriques. Enfin, voilà, on a fait plein de choses. Mais aujourd'hui, je dirais que le gros morceau et ce qui nous préoccupe, c'est qui prend.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes 3 associés, c'est ça, pour gérer à la fois le cabinet de conseil et Kikool.
Alors le cabinet de conseil, il est géré différemment. D'accord. Mais en tout cas, disons que le groupe Kikool aujourd'hui, en tout cas le pool d'actionnaires majoritaires, il est constitué de 3 personnes. Mais c'est moi qui ai les rênes.
D'accord.
Voilà.
Donc vous vivez une semaine en métropole et une semaine à La Réunion.
Il paraîtrait que choisir c'est renoncer et moi je déteste cet adage, donc j'ai choisi à la fois de pouvoir combiner une vie de chef d'entreprise épanouissante, une vie de famille nombreuse parce que j'ai 5 enfants et des déplacements et de vivre dans un endroit qui me plaît. Donc je vis à l'île de la Réunion et je suis une semaine sur deux en métropole pour faire tourner les affaires. Voilà.
Bon. Et donc aujourd'hui,
que je revendique.
Oui, mais c'est bien. Aujourd'hui, le réseau Kikool, c'est 80 franchisés.
Ouais, c'est ça. C'est à peu près 80 franchisés, 270 salles, une centaine de salles détenues par l'enseigne directement, et puis le reste qui est détenu par des franchisés. On essaye de maintenir cet équilibre-là, c'est-à-dire le développement uniquement de manière intégrée. Je dirais qu'il a un avantage, c'est qu'il y a une certaine homogénéité malgré tout des actes et des actions. Il y a le désavantage d'être très gourmand capitalistiquement. C'est-à-dire que si vous voulez aller vite dans le développement de votre réseau, c'est assez compliqué d'investir autant d'argent. Donc nous, on a fait le choix d'être dans un modèle hybride, c'est-à-dire d'avoir des clubs intégrés dans les endroits qui nous paraissent être importants et stratégiques pour nous, et puis de laisser la place à des entrepreneurs des entrepreneurs de très grande qualité qu'on essaie d'accompagner du mieux possible sur des zones qui sont leur zone territoriale. Les salles de sport, mais tous les commerces sont des commerces de proximité. Si vous vous en occupez pas, que vous connaissez pas votre tissu local, si vous avez pas cette fibre client et cette fibre de la connaissance de votre environnement, vous êtes pas performant. Et on peut pas être performant partout. Et il y a des franchisés qui sont assez brillants et très implantés dans leur secteur, donc on leur fait confiance.
Tout à fait. Et vous avez plutôt des profils d'entrepreneurs, de franchisés qui sont déjà franchisé d'autres enseignes ou qui rentrent dans le sport?
Non, c'est très marginal, ça on ne l'accepte pas. Aujourd'hui, voilà, nous on considère que si vous voulez intégrer notre réseau et vous occuper de Kikool à la mesure de ce que ça nécessite, vous pouvez très difficilement multiplier les casquettes. Et je vous dis pas qu'il y en a pas qui l'ont fait ou qui le font parce que c'est le fruit de l'histoire et du passé. Mais ce que je peux vous dire assez aisément, alors je suis le contre-exemple parce que j'ai fait plein de choses à côté, et on a notamment ouvert d'autres franchises ici à La Réunion, nous, mais je suis un peu le contre-exemple, mais malgré tout, je reste convaincu que j'étais un peu atypique et que si vous voulez bien faire les choses, il faut vraiment s'en occuper.
D'accord. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce réseau KeepCool en salle de sport par rapport à d'autres modèles de salles de sport? Est-ce qu'il y a une spécificité particulière à KeepCool?
Bah, KeepCool est un peu là. Il y avait une spécificité historiquement qui s'est un petit peu étoffée, un petit peu transformée. Historiquement, KeepCool, c'est la salle de sport qui a créé le libre accès. Donc, le principe du 7h-23h avec des cours vidéo et avec une grande liberté de pratique et donc du libre accès à des cours réduits, c'est, KeepCool est un peu le pionnier de ce modèle. Je dirais que la différence chez nous, elle se situe principalement à deux endroits. Et tout est concentré autour du client. On a plutôt développé un modèle, nous, d'hyper-proximité. Donc, on a énormément de salles sur des petits modules. Donc, vous avez entre 400 et 700 mètres carrés, ce qui, comparativement à nos concurrents, vous connaissez peut-être pas, mais ce sont des beaucoup plus grands modules qui vont de 1000 à 3000 mètres carrés. Donc, on est sur des petits modules en hyper-proximité. Donc, on est un vrai commerce de proximité avec un réseau très dense et très étendu. Ça, c'est la première spécificité. Donc, vous avez, je dirais, que à la cible, un KeepCool a forcément un quart d'heure de chez vous. On est encore un peu loin de ça, mais malgré tout, avec 270 salles, vous couvrez un rayon.
Oui, ça commence à faire. Oui,
ouais, ça commence à faire. Et puis, deuxième élément, on a une approche client qui est très, très différente de ce que font les autres. Nos concurrents, ils sont assez axés sur la performance sportive. C'est-à-dire qu'ils vont vous accompagner pour être plus musclés et plus toniques et, entre guillemets, plus forts. Moi, c'est pas mon enjeu. Moi, je veux que vous vous sentiez mieux, bien. Donc, nous, on est la salle de sport de celui qui a envie de se mettre au sport. Le coaching est inclus, ce qui n'est pas le cas chez les autres. On va vous accompagner dans votre pratique, on va vous accompagner sur votre hygiène de vie, on va vous accompagner sur votre régime alimentaire, on va vous accompagner. Voilà, c'est une vision assez holistique avec des valeurs de tolérance, de bienveillance et puis de simplicité. Pour caricaturer, chez nos concurrents, vous allez avoir des gens plutôt en forme physique de 20 à 40 ans. Quand nous, on va avoir des gens de tout type de corpulence, de tout type de niveau, avec une moyenne d'âge qui est potentiellement un petit peu plus âgée.
D'accord.
Voilà, avec l'enjeu pour nous d'accompagner les gens à se sentir juste mieux et pas à être
dépendants. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous avons une crise sanitaire qui fait que vous avez par deux fois été fermé et que vous continuez d'ailleurs à être fermé dans l'ouverture par rapport aux salles. Lors du premier confinement, vous aviez proposé à vos adhérents de continuer à avoir en fait leur cotisation qui déroulait et vous engagez à reverser 10 euros à l'Institut Pasteur. Comment ça a été perçu, ça? Est-ce que les gens ont suivi? Quel retour vous avez eu?
Ouais, écoutez, il y avait deux enjeux. Il y avait un enjeu déjà de vrai pour cette recherche, et puis finalement, ça a fini par aboutir parce qu'on a des vaccins. Mais même si on porte une très 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 petite part dans la réalisation de ça, malgré tout, on voulait y participer. Donc, on a collecté à peu près 250 000 euros, ce qui n'est pas rien malgré tout. Comment les gens ont suivi? Écoutez, je vous dirais assez variablement. Il y a à peu près 20% des clients qui se sont portés volontaires. Voilà.
D'accord.
Mais l'enjeu, c'était pas. Là, en l'occurrence, c'était plutôt de dire, voilà, si vous avez envie qu'on soit un concentrateur pour vous de votre générosité, on est là pour ça. Ça correspond à nos valeurs.
Ouais. Et donc, par rapport à ces différentes fermetures, comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça a créé chez vous de changement, de rebond? Une application peut-être pour faire du sport. Vous avez gardé le lien via une application, j'imagine.
Oui.
Voilà, comment on vit cette fermeture chez KeepCool?
Je dirais qu'il y a deux temps. Il y a le premier confinement qui est un premier temps. Moi, j'appelle un peu le temps de la stupéfaction. Je ne saurais pas le dire autrement.
Ouais. Comme chez beaucoup d'ailleurs.
Ouais, donc on essaye tant. Enfin, je ne sais pas si on prend les bonnes décisions, mais on essaye tant bien que mal de composer. Avec ce qu'on nous impose, et à l'époque, on n'imagine pas que ça va durer très longtemps, donc je dirais qu'on subit un peu. Et le deuxième temps est beaucoup, et on subit, et en tant qu'entreprise, et moi personnellement. Et puis le deuxième temps est bien meilleur selon moi, et on est dans une bien meilleure posture, c'est-à-dire que d'abord, le sel de ce qui fait la réussite, de mon point de vue, d'une société, c'est sa culture. Je pense que je sais pas quel type d'auditeurs vont nous écouter, mais moi, la culture, je pense que c'est l'ensemble des valeurs imperceptibles ou en tout cas non formalisées qui guident les comportements des gens qui travaillent avec vous de manière naturelle. quand j'ai repris cette société, il a évidemment fallu retravailler sur la culture. Et on a vraiment profité de ce temps mort pour renforcer ça. On a trois valeurs qui sont très importantes chez nous. La première valeur, pour moi, c'est l'exigence. L'exigence envers soi, se dépasser envers les autres et envers nos clients, être le meilleur possible, sans être nécessairement guidé par l'appât du gain, le gain n'étant que la conséquence de bien travailler, de faire les choses avec respect. La bienveillance pour soi et pour les autres. J'essaie de faire progresser celui qui est à côté de moi. J'essaie moi-même de faire du bien aux gens qui m'entourent. Et l'agilité, c'est-à-dire, il n'y a pas de réponse dogmatique, il n'y a pas de manière de procéder dogmatique et on n'est pas surprocessé. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus.
Ce travail sur les valeurs, vous l'avez fait entre vous, entre franchisés, avec des clients. Quel était le processus de travail, en fait, pendant cette période sur ces valeurs?
D'abord, je pense que les valeurs, elles doivent être impulsées par l'équipe qui dirige. Une entreprise, elle n'est jamais qu'à l'image de celui qui la pilote. Et ça, je sais que c'est pas très moderne comme vision, mais malgré tout, j'en reste convaincu. Et même si je suis pas très très âgé, je reste convaincu de ça. Donc, moi, mes associés, mon équipe de direction, on s'est attaché à continuer à l'insuffler. Et puis, vous savez, ensuite, si c'est bien fait, ça draine, quoi, ça se propage. Vous avez des équipes, vous le savez, si vous expliquez à votre N-1 que c'est ce que vous attendez de lui et qu'il est fini par être convaincu, il va l'expliquer à celui qui est en dessous de lui, etc. Et par capillarité, ça va se propager. Donc on a pas beaucoup de communication, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Là, on fait, par exemple, avec nos franchisés, aujourd'hui, on est sur un rythme de 4 à 5 webinaires par semaine. Donc on les a quasiment tous les jours. Voilà, on s'est mis dans une dynamique de pas subir, de progresser, de se re-questionner, effectivement de développer du digital, mais pas comme un mantra, comme la continuité d'autres choses. Voilà, on a beaucoup beaucoup travaillé sur l'énergie et sur les valeurs pour pas perdre les gens en chemin, parce que on n'a pas de perspective de réouverture, disons-nous la vérité. J'imagine que ce sera pas avant le mois d'avril, et qui sait. Donc c'est un vrai travail. Le travail essentiel, il a été mené sur l'organisation, la refonte, l'adapter, la rendre plus agile, et puis sur l'humeur et sur l'énergie, de garder de l'énergie. Malgré tout.
Oui, c'est ça qui est compliqué d'ailleurs.
Et vous savez, quand vous faites ça, ça se traduit très prosaïquement. Aujourd'hui, on vend des abonnements. Aujourd'hui, tous les jours, on vend des abonnements. Parce qu'on a décidé que c'est pas parce qu'on était fermé qu'on pouvait pas travailler. On vend des abonnements. Oui, oui. Des abonnements physiques. Voilà. Donc, au-delà de, effectivement, il y a une application mobile, au-delà de travailler sur les parcours clients, de digitaliser, de toutes les tartes à la crème que vous allez entendre, je ne pense pas que c'est le fond du sujet. Je pense que le fond du sujet dans ces périodes d'inertie, c'est de garder une équipe mobilisée, même si elle est en chômage partiel, de garder de l'influx et de garder de la dynamique. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va réouvrir.
Oui, oui, bien sûr. Ça rouvrira, oui.
Ouais.
Ça rouvrira et en même temps, les gens ont pris l'habitude de faire du sport chez eux, d'être accompagnés à des applis. Est-ce que vous pensez que ça restera un mix de temps, je prends un peu de temps, c'est rentré dans ma routine et je prends du temps pour moi, chez moi, et je retourne à la salle parce que j'ai besoin de contact quand même, de voir des gens, ou est-ce que les gens reprendront leurs habitudes parce que finalement c'est plus simple d'être à la salle que de se mobiliser chez soi?
Moi, je pense que le principe de dire que le confinement aura changé quelque chose, j'y crois absolument pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais dans les 2 mois, on a été réellement enfermés. On a commencé à regarder peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est le cas de beaucoup de gens autour de moi, à regarder peut-être un peu même la vie un petit peu différemment, et puis de vouloir repenser des priorités ou un rapport à soi, aux autres, à sa famille, à la spiritualité, à plein de choses. Et puis en réalité, dès que le rythme a repris, tous ces bons préceptes se sont évanouis comme neige au soleil. Donc, je pense que la crise, ce n'est ni plus ni moins que l'accélérateur de tendances. Effectivement, les tendances, elles sont à la modularité. C'est-à-dire que vous n'avez ni envie de faire du sport chez vous, ni envie de faire du sport dans une salle, ni envie de faire du sport exclusivement à l'extérieur. Vous avez envie qu'on vous donne la possibilité de mixer. Mon job à moi, c'est de ne pas être simplement un réseau physique, mais d'être un catalyseur de votre bien-être, comme je vous expliquais. Donc, je suis capable de vous accompagner via mon application pour faire du sport à domicile. Je suis capable de vous accompagner dans ma salle en vous offrant l'expérience la plus qualitative possible. Je suis aussi capable de vous emmener dehors pour faire du sport, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des small groups. Donc voilà, moi je suis, mon job, c'est de vous accompagner sur l'intégralité des modalités. Mais c'était déjà quelque chose qu'on avait prévu de faire. C'est ni plus ni moins qu'un accélérateur de tendance.
Oui. Et par rapport à ça, donc vous dites, on propose maintenant de faire du sport dehors. Donc c'est maintenant comment se compose l'offre en fait chez Keepcool. Quand on adhère, en fait, on a le choix entre, bon, pas la salle en ce moment, mais on aura demain le choix entre la salle, l'application, faire du sport dans d'autres lieux.
Votre application,
ça sera
votre application mobile, c'est le fil. On est en train de continuer de la travailler, de la refaire, etc. Mais mettons-nous à la cible, c'est plus simple. Plutôt que de vous dire ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, oui. peut-être que vous irez prendre un petit abonnement et puis vous verrez où on en est. Je dirais que l'application mobile, c'est le fil conducteur, c'est-à-dire que c'est votre compagnon. Votre compagnon, il va vous indiquer, moyennant un programme qu'on aura construit avec vous, si c'est aujourd'hui, vous n'avez pas d'obligation, mais si aujourd'hui, c'est bien, vous avez prévu, venez à la salle pour faire tel type d'exercice, aujourd'hui, plutôt, restez chez vous parce qu'il pleut et que ce sera probablement plus agréable de faire ça dans un univers confiné. Et puis, dimanche, c'est grand beau temps. Et en fait, on vous donne tous rendez-vous en bas de la salle pour aller faire un jogging ou n'importe quoi d'autre, du yoga, ce que vous voulez. Donc, l'offre, elle est déjà plurimorphe. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est de vous dire, je te donne accès à une bibliothèque de cours à distance, je te donne accès à mon réseau physique et je te propose, mais c'est déjà le cas, de t'accompagner pour faire du sport à l'extérieur. Et la cible, d'accord, c'est évidemment que ce soit monitoré avec des objets connectés, qu'en fait, on soit capable d'être très fin. Je dirais qu'aujourd'hui, la limite, mais de toutes les enseignes, y compris la nôtre, c'est que on construit des programmes un peu pré-bâtis, mais qui ne sont pas interactifs avec votre état de santé. Moi, demain, mais ça va arriver assez rapidement, je souhaiterais que vous offrir un objet connecté et puis être capable de dire, voilà, Claire, t'as mal dormi cette nuit, viens pas à la salle. Cette nuit, Claire, il faut que tu dormes. Par contre, demain, une fois que t'as bien dormi, il faut que tu manges ça, il faut que tu viennes chez moi. Et si tu fais tout ce que je te dis et que tu me suis, bah, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et puis, alors mieux, ça peut être plus musclé, moins de masse graisseuse, ça dépend des gens. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'enjeu.
D'accord, très bien. Et par rapport à cette l'évolution du réseau, du coup, est-ce que ça impactera aussi le développement en nombre de salles, puisque on sera plus mixte dans nos pratiques, donc est-ce que on aura besoin de salles peut-être plus petites où on se retrouvera de temps en temps?
Ouais, je pense qu'on est très bien positionné. Nous, on est merveilleusement positionné. Je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir beaucoup de salles en proximité. C'est l'hyper proximité qui répond aux besoins. D'ailleurs, vous voyez bien, aujourd'hui, les gens détestent les grandes surfaces, détestent les grands modules, détestent. Je crois que la grande révolution marketing, c'est d'industrialiser la différence. C'est la capacité à offrir un parcours différent à chacun, adapté et de proximité à chacun, tout en ce que ça vous coûte pas en tant qu'entreprise le coût de la personnalisation. Et donc, effectivement.
Et tout à fait.
Voilà.
C'est vrai, oui.
Et en fait.
Et puis le client, je lisais hier l'étude de Forrester, mais le client n'est pas prêt forcément non plus à payer la personnalisation.
Non.
C'est-à-dire que le prix reste quand même un enjeu encore majeur dans son critère de choix.
Exactement. Et aujourd'hui, ce que de mon point de vue, très peu d'enseignes ont réussi à faire, et en tout cas absolument pas dans mon secteur, c'est non seulement d'arriver à faire ça, mais en plus d'arriver à le faire en donnant une nouvelle place au réseau physique. Aujourd'hui, la plupart des modèles opposent le réseau physique au réseau digital. Je pense que c'est une grande erreur. Nous, on a un vrai enjeu qu'on appelle figital, nous, c'est-à-dire la capacité à ce que le réseau physique soit la clé de voûte, parce que le contact et l'humain restent la clé de voûte en hyper proximité, mais que tout ce qui tourne autour vienne enrichir l'expérience physique. Bah, c'est comme ça qu'on le vit, nous.
Et comment vous placez le client dans cette démarche? Comment vous avez structuré? Vous récupérez les avis clients, mais est-ce que vous utilisez aussi les avis de vos clients? Est-ce qu'ils sont co-créateurs de vos nouvelles offres? Est-ce que vous les intégrez? Testez ensuite ce que vous avez décidé, vous, avec vos équipes?
Alors, et je vais être parfaitement honnête avec vous, c'est la cible. C'est une entreprise, comme je vous dis, que j'ai repris il y a à peu près un an, donc c'est encore très jeune, mais on a lancé ce qui n'avait pas été fait historiquement, parce que c'était un marché qui marche. Ça marchait un peu tout seul. On a lancé un grand travail de segmentation client. Et encore une fois, il y a autant de besoins que de clients. Je pense que le travail, il n'est pas tant d'être à l'écoute d'un certain nombre de clients qui vont vous donner une information, mais qui n'est que partielle. Il est plutôt de leur permettre de faire leur choix, de faire leur choix de manière simple. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si vous voulez, aujourd'hui, aller faire une étude conso, faire des groupes quali, etc., ce que ça va simplement vous dire, c'est que les gens n'ont pas besoin de la même chose. Vous n'allez pas en retirer, de mon point de vue, vous n'allez pas en retirer une tendance qui va vous permettre de définir une leconduite, si ce n'est que chacun a besoin de quelque chose de différent aujourd'hui. Et que mon job à moi, c'est de faire en sorte de l'industrialiser, c'est-à-dire d'offrir à coût constant, c'est pour ça que je veux industrialiser, c'est d'offrir à coût constant une expérience unique à chacun, adaptée à ce qu'il veut. Et pour ça, le digital est un outil formidable. Mais ça va loin parce que ça ne va que dans la façon de communiquer. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous adresser... chez moi, j'ai des gens qui ont 17 ans, puis j'ai des gens qui ont 75 ans. Le plus âgé a 98 ans chez moi dans ma salle. Je vais pas leur parler de la même façon. Et si je les mets tous dans un groupe Cali, ils vont pas me dire la même chose.
Non, bien sûr. Après, et c'est l'intérêt du groupe Cali aussi, quand même. C'est de faire sortir des choses différentes.
Ça s'est fait, entre guillemets, Claire, c'est un peu l'avantage, c'est que des salles, j'en ai depuis 10 ans et je suis franchisé, moi, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, je suis propriétaire à titre de franchisé des salles de mon écosystème. Donc, je suis au contact tous les jours. Là, j'y vais dans une demi-heure. Je les entends, je les écoute.
Bien sûr, oui.
Mais c'est pas.
Non, mais c'est aussi. Ouais. C'est aussi l'observation in situ qui est intéressante aussi. C'est la façon d'écouter ses clients n'est pas forcément de manière extrêmement structurée, mais c'est aussi de pouvoir se dire comment j'observe, ne serait-ce simplement, ou j'écoute mes clients en allant les voir tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les franchiseurs qui ont cette proximité avec leurs franchisés ou qui y vont, qui observent, etc. Cette expérience en tant que franchisé vous aide aussi sûrement à continuer à garder le lien avec les clients de vos franchisés.
J'espère. Enfin, je le souhaite.
Bah oui.
Je le souhaite en tout cas. Et puis après, il ne faut pas être trop dogmatique. Et puis, je pense qu'il faut être assez lucide sur les marchés sur lesquels on est assis. Le marché français, ce n'est pas vrai pour tous les secteurs, mais au moins pour le mien et de mon point de vue pour un grand nombre d'autres. On est très en retard aujourd'hui sur ce qui se fait, par exemple, au Royaume-Uni ou au Canada ou aux États-Unis. Ne serait-ce qu'un... C'est quand même très instructif de prendre 2 semaines et d'aller regarder ce que font les autres. Les autres qui ont, d'un point de vue, de l'avance sur vous. Et alors déjà, faire l'exercice de comprendre ce qu'ils font, de le récupérer et de l'adapter un peu, c'est déjà un bon pas. L'entrepreneuriat, de mon point de vue, c'est pas toujours faire la révolution, c'est simplement essayer de faire un peu mieux ce que les autres faisaient déjà bien. Donc,
tout à fait.
L'écoute, elle est à la fois sur le terrain et puis en regardant ce que font les autres.
Tout à fait. Sur le développement de Keep Cool, quelles sont vos ambitions? Est-ce que aujourd'hui vous dites, on regarde un petit peu comment tout ça va évoluer et puis on verra bien, ou est-ce que votre plan de développement se poursuit dans ce que vous aviez décidé au départ?
Dans les meilleures périodes pour investir, c'est les périodes de crise, Claire. Donc c'est sûr qu'on est en j'ai 3 salles qui même il y a 5 salles qui ouvrent à la réouverture. Elles sont déjà prêtes et j'ai au moins une quinzaine de projets dans les cartons, bien sûr.
Donc vous avez encore des franchisés qui sont intéressés à la franchise.
On fait un sondage annuel sur les intentions des uns et des autres. Je dirais que 90% sont dans une dynamique d'ouverture de salles aujourd'hui.
Ah bah c'est bien.
Ouais.
C'est chouette de voir en cette période qu'il y a encore des gens qui ont l'envie d'entreprendre. Et comme vous disiez, l'important, c'est l'énergie. Donc, il faut effectivement rester dans cette énergie positive. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous, effectivement, en tant qu'entrepreneurs. Je pense que c'est une caractéristique, peut-être, qu'on essaye de garder, en tout cas, d'avoir cette énergie positive. C'est l'avantage des voix de la franchise, c'est que je rencontre que des gens positifs qui ont de l'énergie. Et ça porte l'ensemble, je trouve. C'est vrai, je sais pas si c'est le cas du milieu de la franchise qui est très dynamique, mais c'est vrai qu'on ressent très fortement cette dynamique. Alors peut-être que vous trouvez aussi votre inspiration dans les podcasts, parce que vous m'avez dit que vous étiez un très grand auditeur de podcasts.
Ouais.
Et quels sont ceux que vous écoutez régulièrement?
Bah, écoutez, c'est assez éclectique. Dans le registre de l'entrepreneuriat, j'aime bien ce que fait Mathieu Stéphanie, mais je pense comme beaucoup de gens.
Ouais.
C'est pas lui que j'aime particulièrement, parce qu'il pourrait avoir tendance un peu à m'agacer, lui, mais c'est plutôt les gens qui reçoivent. Voilà, c'est assez intéressant.
Mais c'est assez inspirant.
Ouais, enfin, en tout cas, les parcours, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui sont assez inspirants. Je suis un passionné de sport, donc, et j'aime les sports américains, donc, j'écoute des podcasts de NBA, ça parlera pas beaucoup aux gens. J'aime la géopolitique, j'aime les histoires d'espionnage, donc j'écoute les rendez-vous avec X de France Inter. Il y a des podcasts très bien, un truc qui s'appelle Cerno, qui s'appelle L'Anti-Enquête, qui est très bien aussi, qui est une enquête sur un meurtre qui a été commis. Il y a plein de choses. Mais ça, c'est vraiment un environnement fabuleux. Hein. Moi, je trouve que c'est fabuleux.
Oui.
Incroyable même.
Oui, mais moi aussi. Oui.
Et je trouve que c'est dans le secteur des médias, c'est l'endroit qui est le plus créatif aujourd'hui.
Mais on va arriver un peu au terme de cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps dans un emploi du temps bien chargé. Et une dernière question que je pose à toutes les voix de la franchise qui viennent parler, c'est une question sur le doute. Voilà, chaque entrepreneur, je crois que chaque personne aussi est parfois confrontée au doute. Certains me disent même que c'est très souvent, moi personnellement aussi. Mais est-ce que vous avez une routine, quelque chose qui vous aide à passer ce doute?
Alors, est-ce qu'il y a du doute? Il y a du doute tous les jours. Tous les jours. Sur la manière de faire les choses, sur les chemins qu'on prend. C'est pas des chemins pavés de rose, hein, ce type d'aventure. C'est forcément, il y a des gens qui vous suivent, il y a d'autres qui vous contestent, et puis il faut embarquer, fédérer. Donc, est-ce que j'ai une routine? Moi, ma routine, c'est une heure de marche dans la montagne et petite méditation, une petite prière pour la dimension spirituelle, ouais. La capacité.
En tout cas, vous
trouvez les ressources.
Je comprends votre attirance pour la Réunion et pour ces cirques si sauvages et dans lesquels effectivement la méditation est presque naturelle. Tellement elle est encouragée par l'environnement. Écoutez, merci beaucoup.
Merci.
Bon développement à Keep Cool.
Merci beaucoup. On va suivre ça avec
attention. Et puis à bientôt, David.
Plaisir, merci, au revoir.
Au revoir.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que Les Voix de la franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.